Suite et fin de la traversée du centre commercial Le Merlan avec l'artiste architecte urbaniste Gonzo Nicolas Mémin sur les 3-8. Une visite commencée ce matin par le parking et la galerie commerciale du Merlan, une exploration quittée au niveau du restaurant Le Safari et qui reprend maintenant près du manège.
Toujours dans le ronron des caddies. La musique est pas chiante. Je m'attendais à une musique beaucoup plus prenante. Je suis souvent emmerdé par la musique. Là, je l'entends plus du tout. Et surtout, ce qui m'emmerde dans la musique, c'est quand c'est coupé par des messages. Nous tenons à vous informer qu'il y a une promotion sur tel article. Ça m'interrompt dans mes pensées à chaque fois et je vis ça comme vraiment une manière d'autorité extérieure dure avec moi.
Ce que je trouve dur, c'est les manèges qui tournent sans musique.
Et ça marche pas trop d'ailleurs. Il y a deux petites en haut, elles sont super. Elles sont dans le nuage de Dragon Ball Z. Il n'y a pas de Mickey. Oh, c'est super, un manège sans Mickey. Et tout est là, hein, tu vois. Le coup des lumières et du mouvement, c'est la recette du supermarché. Lumière et mouvement. Et ça marche et c'est tant mieux, quoi, c'est ça. Quand tout sera comme ça, ce sera une perfection parfaite. Elle est magnifique, la voiture de Roger Rabbit avec les pneus crevés, là. Avec sa bouche un peu glamour. La seule touche Disney, ce serait le... Il y a un cheval à bascule. Il a un petit peu un air de Pluto dans les yeux. Pas mal, hein. Et il y a une moto aussi qui a l'air d'une vraie moto. Elle, on dirait une vraie moto. Juste, ils l'ont fixée. Même, on pourrait enlever la fixation puis aller faire un tour de supermarché avec.
Oh, le camion Mercedes tout au-dessus, il est pas mal.
Il est très, très drôle, le camion. J'avais pas vu que c'était un Mercedes.
Si, c'est.
Oh, c'est royal, c'est vraiment beau, hein. T'as vu, il y a l'espèce de peinture sur la résine là, comme c'est plein de profondeur et d'effet. C'est de la peinture comme à la bombe, tu vois, où ça diffuse là. Ça fait un peu comme des traînées de poussière, hein. C'est assez beau. En même temps, je regardais ça et je pouvais pas m'empêcher que c'était un univers de jeunes filles. Là, c'est la boutique Camailleux. Et on voit, c'est plutôt blanc avec des couleurs pastel. C'est Mimi, hein. L'enchaînement des univers est assez étrange. Là, c'est les mêmes, mais elles ont déjà un môme. Tu vois, c'est vachement plus sérieux, quoi. Donc ça, c'est la boutique Mime, qui est en face de la boutique Camailleux. Autant Camailleux, c'est tout Mimi, faussement joyeux. On les voit en train de se montrer des cols roulés vert amande. Et en face, ça se comprend tout de suite, c'est vachement plus motif à rayures, marron clair et marron foncé. Donc là, ils ont déjà au moins un môme qui leur cause souci. Il faut qu'elles soient sérieuses. Fini les couleurs pastel. Vive les prix choc. Faut que je m'achète des lunettes. Et j'arrive pas à rentrer dans les magasins. Alors voilà le commerce qui marche le plus chez nous, c'est la pharmacie. Je pense à tout ce qu'il y avait avant avec les alchimistes, les guérisseurs, tu sais, les guérisseurs au fond de la jungle. Qui récoltent des plantes, qui font des mixtures étranges avec. Les apothicaires en Europe, pendant l'Ancien Régime, qui étaient un peu des charlatans, avaient toute une esthétique du bocal en porcelaine avec le dessin de la plante dessus. Puis tout ça, c'est censé te soigner. Le look des pharmacies soigne. Tu vois, une pharmacie, tu le fais comme le Disney Store. Les gens sont plus malades en achetant des médicaments dedans. Tandis que là, t'as un petit côté sérieux, propre et bien rangé, tu vois, c'est jamais trop. Ça dégueule jamais trop les publicités de supermarché, à part mincir. Hein. Toujours ça, mincir, là, c'est un petit peu trop, des fois. Mincir et ne pas avoir de rides, des fois, c'est un petit peu envahissant. Mais c'est le côté sérieux d'une pharmacie te soigne, hein, tout simplement. T'as plus confiance.
Il y a le côté éclairage néon qui fait un peu sécurité sociale.
On peut noter les côtés cheap, pas cheap aussi. Ça, c'est cheap, c'est vraiment deuxième classe parce qu'ils l'ont pas refait depuis au moins 10 ans. Tandis que la boutique à droite, là, lui, il a dû refaire il y a 4 ou 5 ans. Tout est beaucoup plus propre. Les peintures sont encore nickel. Et il n'y a pas... Il n'y a pas comme dans la pharmacie, un faux plafond avec un peu de désordre dans le faux plafond. Le sol qui est jamais très propre, qui est toujours un peu gris parce que c'est incrusté en profondeur. Les barrières magnétiques, là, les trucs anti-vol à l'entrée, ils sont un peu moches, tu vois. Ils sont un peu pleins de crasse, de pommes. Ils sont ivoires au lieu d'être blancs, tu vois. Ils sont ivoires, ils ont l'air un peu de guingois, etc.
Ça a l'air d'être un vieux modèle.
Bah, 80, moi je dirais entre 90 et 95. C'est pas si vieux, hein, que ça. Ça c'est tout neuf. Ouais. Le bois, le faux bois est assez intéressant dans ces endroits-là. Là on voit, donc c'est un placard de bois et tu vois l'écaille qui est partie. C'est assez connu, hein. C'est-à-dire le vrai bois en dessous c'est de l'aglo, c'est de l'aggloméré de particules de bois avec de la colle qui pollue beaucoup, merci. Et puis par-dessus il y a juste une feuille qui est en plastique avec dedans un dessin de bois. Des fois on voit même les petites impressions jets d'encre. Et tout ça, ça part. Ce qui est touchant, c'est le vernis de ces objets. Je pense que ce vernis a dû apparaître dans les années 90 parce qu'avant, les faux bois étaient beaucoup moins... Tu vois, pense au formica, par exemple. Tu vois, le formica avec le faux bois, c'est vraiment du plastoc, le formica. Il y a une prétention d'avoir un dessin de bois, mais tu sens que c'est pour de faux, quoi. C'est tout en plastique. Parce que là, c'est vraiment illusionnant. Il y a ces espèces de nouveaux vernis que je sais pas exactement comment c'est fait dans le détail, mais c'est les nouveaux vernis qu'on met sur le faux bois, qui sont mat, déjà. Donc mat, ça fait moins plastique. Et puis qui sont mais hyper résistants, quoi. Vraiment très solides. Ça donne du sérieux. On va voir le Grand Carrefour. Ouais. Et puis surtout, ce qui est intéressant ici, on va le faire après le Grand Carrefour, c'est passer de cet environnement où tout le monde a l'air conditionné pour aller au théâtre, hein, en passant par les arrières. Tu connais ce passage ?
Ouais. Je sais pas, j'en connais un.
Mais il n'y en a qu'un.
Je suis descendu par un ascenseur et après j'arrivais à l'étage.
Là où tu as la galerie, là au-dessus du commissariat.
Ouais, voilà, hein. Où tu passes dans les couloirs trop fait et...
Alors quand je sortais du bus, je suis sorti du 53 un petit peu après le rond-point là, vers l'avenue Corot. Et il y a deux jeunes filles qui sont descendues avec moi et elles ont dit viens, je préfère descendre ici, j'ai pas le moral pour passer par le tunnel. Et j'en suis pas sûr, mais je pense qu'elle parlait du fait d'accéder au Carrefour Le Merlan en s'arrêtant avenue Rému, en face du théâtre, avec le 53, et donc arriver à l'intérieur du Merlan par ce qu'elles ont appelé le tunnel. Et c'est vrai que ça lui va super bien à ce passage entre théâtre et supermarché de s'appeler le tunnel. Et comme moi, elles ont préféré prendre le trottoir au bord de la pseudo voie rapide en passant devant les poubelles du supermarché. C'est moins glauque que le tunnel. Là, c'est très drôle, c'est un magasin de pantalons pour garçons un peu macho et tous les murs des vitrines sont recouverts avec une tapisserie, c'est un papier peint de murs campagnards rustiques avec des joints apparents. Tu vois l'impression de campagne, quoi. Et c'est vrai que les vestes, elles sont toutes avec des grandes poches pour pouvoir mettre des couteaux suisses extra larges. Et puis, il y a un pull, on sent que c'est pour aller se promener dans les bois, quoi. Il y a un gros col épais qui se remonte. Les chaussures sont un peu sport. Et tout ça, c'est dans l'artifice le plus parfait. Une sculpture de David au milieu. Oh, mon Dieu. Quelle homosexualité refoulée, dégoûtante. Ça, j'adore. Hein. C'est le magasin de Clés Minute. Ça n'a pas bougé, je pense. Je pense que ça n'a pas bougé depuis, 30 ans, quoi. Depuis la livraison. Le mot imprimerie là avec ses caractères bâtons hein, au fond là, ça n'a pas dû bouger depuis 30 ans. Les petites plaques de sonnette, faux bronze, faux argent, faux bois, il y avait déjà les mêmes à l'époque. L'odeur de travail, je trouve ça super touchant. Bientôt ce sera comme dans les musées, tu vois, on dira ah, non, ne touchez plus à rien, surtout ne changez pas votre clé cordonnerie imprimerie. On va le mettre au musée des arts et civilisations, au nouveau MUCEM, parce que tout est parfait.
La clé en chantier.
Ça c'est dégueulasse, hein. Son nom dans le néon. Alors ça c'est les années 80, Il y avait des albums de Jeanne Masse qui utilisaient la même typographie, tu sais, faussement manuscrite, belle écriture de fille nerveuse. Hein. Donc c'est le néon qui marque la clé enchantée à gauche au-dessus du magasin de clé minute là. Et puis il y a même là, c'est souligné en dessous avec le retour, c'est vraiment de la graphologie, tu sais, pour montrer le. Il y a un caractère extrêmement dynamique et sûr de lui dans cette écriture là de la clé enchantée. Et le fait que ce soit en néon, que ce soit cassé à peine clignotant, on voit ça palpite, on dirait le cœur d'un cardiaque, tu sais, c'est ça va mourir dans pas longtemps et il est tout sale et noir de poussière. C'est vraiment ce décalage, tu vois, où ici là tu marches sur de la pierre dure un peu luxueuse, tu es dans la musique et la lumière avec plein de fausses pierres, et puis tout d'un coup devant toi il y a une espèce d'arrière-cour d'hôpital. Voilà, là on rentre dans la sortie de secours. Le sol est en carrelage, c'est du carrelage 20-20, carreau céramique blanc, demi-émaillé, vachement crade, mais en fait pas nettoyable. Il y a des gaines électriques, c'est éclairé au néon. Tout ça, ça dépasse de partout. Il y a des éraflures partout sur les plinthes. Il y a de la peinture à même le parpaing sur les murs. C'est pour que les poètes se ressourcent. C'est pour que les. Ils ont calculé. Si tout était absolument parfait et conditionné, les poètes ne viendraient plus. Donc c'est pour qu'il y ait encore des petites accroches avec la dureté de la vie. Le mur qui parle, distributeur automatique de billets, bienvenue. Ah ça c'est touchant, les bruits de bébés qui pleurent. Un peu d'humanité. Tout n'est pas si facile, écoute.
J'adore.
Viens.
Oui.
Tu sais, tu manquais au manège.
Voilà, mais en fait, c'est... Je pense que ses parents sont en train de profiter de l'offre spéciale 15% sur le séjour Disneyland Resort Paris. Mais lui, il a compris que c'était pas une vraie souris. Je pense que c'est un vice de ma part d'aimer les enfants qui pleurent dans les supermarchés. Alors, on arrive dans le gros mammouth. Il va peut-être falloir que je mette mon sac dans un truc en plastoc. Oui. Bonjour. On peut l'emballer, monsieur ?
C'est quoi ça ? Il y a quoi là-dedans ? C'est des BD, CD ?
Non, non. Oui, il y en a des CD.
Ah, c'est un CD, vous rendez avec. On va les CD.
Ah, mais il y a des CD, j'ai acheté ça tout à l'heure.
Ah, jusqu'à la dernière fois, il faut m'emballer.
Oui, mais c'est...
Emballer tout le sac plutôt, alors.
Ouais, si ça rentre, hein, tu vois, regarde l'entrée, elle est pas très large.
Mais ça, là, il faut le tenir comme ça, le sac. Hein.
Merci.
Mais ceci dit, je pense pas que ça soit des CD qui puissent être vendus ici.
Non, mais il faut emballer, hein, monsieur.
Et je vais pour emballer le sac.
C'est ici, là,
pour vous. Oui,
voilà,
je pense pas qu'ils soient vendus ici, hein, si c'est vous.
Un Nike, Hubert Philippe, le sac.
Ouais, on met tout le sac, vas-y. Une petite odeur de plastique brûlé, hein.
Ah, pardon.
Le sac n'est pas frayé. On met tout ça, le sac, hein.
Oui.
Damba.
Avec la main en dessous.
Ah, ça se déchire.
Ouais, j'ai besoin de le prendre Damba.
Mais je vais le prendre sous le bras. Je vais prendre sous le bras.
Voilà, donc on a mis des capotes sur nos objets extérieurs. Et maintenant, on rentre dans un monde d'objets vierges. Les toits sont magnifiques toujours dans les supermarchés parce que tu as toutes les gaines de ventilation. Et t'as le rideau de néon. Et donc normalement tu es censé pas voir ce qui se passe derrière le rideau de néon. Mais derrière, il y a tout le côté technique qui est là, qui est d'une honnêteté incroyable. Et en dessous de l'honnêteté de toutes les conduites de ventilation, les caméras de sécurité, tu vois la boule blanche là.
Ouais.
Il doit y avoir les détecteurs incendie, tout ce qui est alimentation électrique, tout est là. Et juste en dessous, tu as des gros objets en carton, tu as des fausses tasses à café, je crois que c'est des pots de fleurs. Hein. Et des faux pots à lait, comme on faisait les pots en étain il y a encore. Bah, ça ne doit plus exister depuis les années 60, des pots à lait comme ça. Quoi. Mais il y a encore y a un dessin de. Il y a un motif peau de vache dessus pour qu'on connaisse mieux que ce soit un pot à lait. Sinon, ça pourrait être ambigu, ça pourrait être Massive ouais. Destruction Weapon. Voilà, ben on y est. Je connais qu'un seul peintre qui a peint les intérieurs du supermarché, c'est Philippe Cognier. C'est super beau, j'en ai vu un à Beaubourg. Il peint les supermarchés, il peint l'accumulation de produits. C'est pas un hyper réaliste, hein. Il a une espèce de technique à la cire fondue qui fait que ses tableaux sont très estompés. Un peu comme quand quand tu joues avec l'aquarelle, avec le support qui imbibe et qui diffuse comme ça, qui fait des petites étoiles de couleurs. Donc c'est assez. Il est fou quoi, mais on reconnaît bien les supermarchés. Mais je pense vraiment que ça se contemple comme étant un mystère incroyable. Le mystère de notre richesse en fait, tu sais. Et puis donc à chaque fois qu'on rentre dans un supermarché, comme ici là, en France, on trouve ça super normal. Mais à chaque fois qu'on va dans un supermarché à l'étranger, on est mais mort d'exotisme. On adore ça, quoi. Les rayons fromage en Italie, le rayon charcuterie en Espagne, les supermarchés anglais, comment ils sont différents et tout. Et c'est un bonheur fou. C'est un vrai plaisir de touriste, de choses nouvelles. Et les supermarchés français ont une très bonne réputation à l'étranger. C'est parmi les plus gros du monde. Et on est parmi les plus forts.
Ouais.
Les Néerlandais, par exemple, qui ont, je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 très gros supermarchés dans tout le pays. Il doit y avoir le supermarché de la reine Wilhelmine, le supermarché du prince Claude et le supermarché de la princesse machin. Les supermarchés ont des noms de personnes de la famille royale. Il n'y en a que 3 et donc quand ils arrivent en France, tous ces supermarchés, ils trouvent ça mais incroyable quoi. Ils disent mais c'est pas possible de consommer autant, ils doivent être malades. C'est pour ça qu'ils sont tous obèses et dépressifs, c'est parce qu'ils consomment trop. Tout est là dans la contemplation de cet état de richesse incompréhensible. C'est complètement incompréhensible. Ce truc a jamais été vraiment théorisé, ce qu'on est en train de voir là. Il n'y a pas eu d'abord un artiste ou un penseur, un économiste, un philosophe qui a dit il y aura comme des grandes maisons où tout sera sur le même plan, on aura des chariots et il y aura des accumulations de produits de toutes les couleurs et tous différents. Personne ne l'a jamais dit. Ça a été inventé d'une manière empirique, c'est-à-dire par l'expérience. Ça a commencé dans les épiceries aux États-Unis. Je crois que c'est dans les années 30 qu'il y a le premier self-service. C'est-à-dire autrefois dans les épiceries, il y avait un banc, comme un bar. Un banc, c'est comme banc comme banque. Hein, le banc, c'est là où on met l'argent, banque. Il y avait un banc avec l'épicier derrière le banc et tous les produits étaient derrière l'épicier. Il fallait demander à l'épicier, oui, je veux le lot de piles LR6 et l'épicier le mettait sur le banc. Et dans les années 30, il y a un épicier américain qui a inventé le self-service, ce qui a pas dit, c'est une belle invention, n'empêche. Hein. Il a dit, je file des paniers au client et le client met les objets dans le panier et après, il vient me payer et entre-temps, je le surveille pour voir qu'il ne fasse pas de bêtises.
Pour faire des économies personnelles.
Tout simplement, c'est pour te laisser la liberté, c'est-à-dire quand tu es...
Toucher le produit.
C'est vachement dur d'acheter un magazine porno ou des capotes, par exemple, tu sais, en le demandant. Par contre, si c'est un distributeur automatique, c'est vachement facile, quoi. Alors, j'ai dit l'exemple le plus choquant pour qu'on comprenne de quoi je parle, mais c'est vachement dur d'acheter du papier cul. C'est super difficile de se promener. Alors, est-ce qu'on va voir quelqu'un...
Dans les années 30, maintenant, ça va.
Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas, putain. J'arrive pas à acheter du papier cul. C'est trop dur de se montrer avec à la main, quoi.
Tu peux passer deux rouleaux.
Mais je me démerde. Je vais dans les musées avec un sac. En plus, ils ont du papier blanc dans les meilleurs musées et je récupère le papier. Mais aller devant tout le monde et porter un rouleau de papier cul, moi, je peux pas. J'ai honte. Mais on est nombreux comme ça.
Ah, il y a un club.
Non, je pense qu'on est tous comme ça, plus ou moins, à un moment. Tu vois, à un moment, on se rend compte que... Tu vois, regarde, là, il y a une famille avec des enfants. Alors, je sais pas trop, c'est une famille avec deux femmes. C'est peut-être un couple de lesbiennes qui ont eu des enfants par adoption. Ils ont dû les adopter dans une série anglaise parce qu'ils ont des coupes de pink. Et on voit Ah, il y a le myrrhe vert à côté du Sunny Day orange. Il y a le sucre de synthèse, l'aspartame là. Ouais, c'est super l'aspartame, tu vois. C'est du sucre et c'est pas du sucre. C'est un aliment qui te nourrit pas, ça vaut super cher. C'est parfait quoi. Tout est là, le Coca Light décaféiné, tu vois, sans sucre et sans caféine et tout. Et dans ce spectacle-là, t'as tout. T'as tout le mystère de l'humanité qui est là, tu vois. Pourquoi on est riche comme ça? Pourquoi on n'est pas tous riches comme ça? Et pourquoi on est riche comme ça plutôt que d'une autre manière? Et moi, je sais pas. Je suis toujours bouleversé par ça. Et on a l'air de trouver ça évident alors que c'est le contraire, quoi. C'est incroyable. Et c'est tout le temps en train de changer puisque tous les ans, les produits sont nouveaux, les comportements sont nouveaux, les publicités sont nouvelles. Et puis, il y a des bureaux d'études qui étudient des nouvelles canettes de bière encore plus recyclables, tu vois. Et de la nouvelle bière plus bonne, où il n'y a que le goût, ça fait pas grossir, ça enlève pas la soif.
Et il y a de la couleur.
Là, la couleur est omniprésente autour de nous. Il y a un beau jeu avec le sol blanc et le plafond gris, où toute la couleur ressort encore plus. Et c'est l'accumulation de couleurs, c'est un peu triste. Si tu louches, là, si tu louches, tu vois tout flou, et puis tu as le gris qui remonte. Tu vois, c'est, en fait, c'est brun clair avec des points de néon dedans. Mais c'est dû à l'accumulation tout simplement. Mais quand tu louches pas et que tu regardes, tu as plein de choses qui sont faites pour être regardées. Par exemple, les mots, c'est fait pour être regardé. Quand tu regardes le mot, tu regardes pas la chose. Parce que c'est une partie du cerveau qui s'occupe du langage et une autre partie du cerveau qui s'occupe du non-langage. Donc tu as un hémisphère cérébral qui s'amuse à lire ce qui a marqué, le prix, celui qui est gratuit dans le lot. Le prix traduit en francs, le prix au kilo, le nom du produit avec tout le calcul pour que les noms des produits soient super, que les voitures s'appellent toutes EVA ou Confortabla. Et t'as un autre hémisphère cérébral qui voit une espèce de cube bleu, ou qui voit une espèce de corps de Marilyn Monroe, ou qui voit une espèce de boule qui a envie d'être prise. Et il y a un hiatus entre les deux parties du cerveau, tu vois, t'as trop d'informations qui t'arrivent et tu peux pas raisonner. L'accumulation des objets avec. Enfin, la différence des fonctions des objets est assez incroyable. Là, il y a des bols pour le petit déjeuner. Derrière, il y a des trucs en plastique pour emballer plutôt des choses alimentaires. En face de moi, il y a des housses de sièges de voiture et des parfums de voiture en forme de Titi et le diable de Tasmanie. Là, il y a de l'huile pour moteur. Là, il y a des caisses pour les chats avec de la litière pour les chats. C'est incroyable, des cuvettes de WC, le poème est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est une espèce d'intimité à l'envers, tu vois, les petites culottes, les soutiens-gorge. C'est tout ce que tu aimes, qui est à toi, que tu chéris, auquel tu fais attention. Là, c'est en train de se promener dans l'espace public. Alors, j'aimerais bien qu'on parle, que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Du vol dans les supermarchés. Il y a un de mes voisins m'a dit je préfère voler dans les supermarchés par jeu plutôt que par nécessité. Je trouve ça très bien. Et je sais d'expérience que beaucoup des gens autour de moi, sauf ceux qui sont honnêtes, c'est une forme de maladie qui... J'espère qu'il y aura encore des gens malades d'honnêteté pendant longtemps parce que ça fait se tenir les civilisations debout. Donc il y en a quelques-uns, mais à part c'est rare, tout le monde fauche dans les supermarchés. Et c'est même, je pense, une des plus grandes joies qui soit donnée à l'homme occidental que de pouvoir faucher dans les supermarchés. C'est la petite transgression. C'est le luxe, c'est la revanche contre toutes les contraintes qui nous asservissent, l'expression de soi. Là, l'odeur de poisson. Alors de temps en temps, j'ai des espèces de crises d'agoraphobie dans les supermarchés, mais là ça va, on ne va pas rester longtemps. Et ça m'est arrivé, c'était au mois d'août, j'y vais pas tous les jours. Hein. Et j'avais découvert les caisses sans caissière où tu scannes toi-même tes produits. Et donc le système, c'est ça. C'est qu'à gauche de la caisse sans caissière, tu poses ton panier. Et sous le panier, en fait, il y a une balance qui détecte quand tu enlèves un produit. Devant toi, il y a le scan, donc tu enlèves un produit à gauche, ça allège le poids du panier sur la balance. Tu scannes le produit, ça fait blip, et tu le poses à droite dans tes sacs en plastique. Et en dessous du sac en plastique, il y a aussi une balance qui sait que tu as posé l'objet là. Bon, alors, d'abord, c'est vachement dur à comprendre comme système et à faire. Et puis, j'y arrivais pas. Et donc, quand tu y arrives, ça fait blip. Mais quand tu n'y arrives pas, ça fait le bruit d'un coup de feu avec un silencieux. Flou. Et j'y arrivais pas. Flou. 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 Parce que j'avais pas posé l'objet à droite dans l'autre balance. Et donc l'ordinateur, il savait que j'avais pas posé l'objet. Il attendait que je pose l'objet avant de pouvoir scanner le prochain, quoi. Et j'avais pas compris. Et je me suis fait virer par le vigile. Et tout le monde m'a regardé. Et j'ai fait une crise. J'ai l'air d'un Mongolien, encore une fois. Ah, mais je vais acheter du whisky. Hein. Il y a la queue à la caisse ou pas?
Oui, je crois.
Merde. Bah, je vais pas acheter du whisky alors. J'irai chez Imed en bas. Il y a moins la queue.
Bah, je vais juste checker les batteries. Tiens. Ça en est.
Ah, ça va, pas mal.
Il y a pas de poème de supermarché. Je reconnais pas en tout cas.
Non, moi je vois, je pense à Boris Vian. Là.
Oui, très bien, elle est super. La complainte du progrès. Un avion pour deux et nous serons heureux. La tourniquette à faire la vinaigrette. Et c'était il y a 50 ans ?
Ouais.
C'était il y a 50 ans, putain. Je suis épaté qu'il n'y ait pas la musique. Hein. Ça me manque.
Ouais, c'est comme le manège, hein, mais pas la musique.
Ouais. Parmi les marchés les plus supportables parce que c'est au milieu des quartiers nord de Marseille. Donc c'est un peu un îlot de richesse béate au milieu du tiers-monde, quoi. Et parce que les quartiers nord, il y a des endroits un peu durs en fait. Et donc ici c'est très supportable, mais un supermarché à Aix-en-Provence, j'y arrive pas, quoi. Ou Bonneveine, j'y arrive difficilement par exemple. C'est vrai. Hein. Et on sent les rayonnages, les gens, etc. À Bonneveine, il y a c'est plus normal d'aller faire ses courses. Ici, il y a une espèce de joie collective qui me rend ça insupportable, quoi, en fait. Et c'est vraiment peut-être cette accumulation de couleurs, de produits, etc. C'est peut-être la plus belle chose qui ait jamais été faite. Tu vois, c'est le paradis, quoi. On n'a jamais été aussi riche et bien vivant. Jamais. Ici. Et en même temps, ça se passe dans la culpabilité la plus complète. Parce que ça y est, on le sait, c'est à cause du fait que tu vas faire tes courses en voiture, que les entreprises sont délocalisées en Chine et qu'en plus le niveau de la mer monte pour aller vite. Donc juste pour dire, c'est un mode de vie, tout ce qu'entraîne le supermarché, c'est un mode de vie qui n'est pas viable, quoi, mais il aura fallu l'expérimenter pendant deux ou trois générations avant de s'en rendre compte. Donc ici, c'est vachement remis en question, puisque à cause du prix du pétrole, la voiture va être remise en question. Donc c'est à la fois la chose la plus belle qu'on ait jamais faite, et en même temps quelque chose qui est empirique, non théorisé, et qui va disparaître dans pas longtemps. Qui risque de disparaître dans pas longtemps. Remplacé par les courses par Internet, livré par chariot électrique jusqu'à chez toi.
C'est par là, quoi.
Ça va être par là, bien, sorti sans achat. Alors, on va faire la chose la plus intéressante du Carrefour Le Merlan, qui est d'aller depuis le mall du supermarché jusqu'au théâtre. j'ai des anecdotes de malls qui sont pas mal aussi. Donc tu vois, ça fait comme une rue avec les boutiques à droite et à gauche, sauf qu'il n'y a pas les maisons au-dessus. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais ça reprend très bien la rue. C'est une rue débarrassée des voitures, mais en même temps, c'est une rue dans laquelle tu viens en voiture. Alors j'ai des petites anecdotes. C'est dans le livre de Rem Koolhaas sur le shopping. Il imagine des scénarios où en fait cette rue-là, comme la rue dans laquelle on est, cette rue artificielle s'appelle un mall de supermarché. Ça marche tellement bien qu'il calcule il cumule tous les malls qu'il y a sur la Terre en kilomètres. Donc je sais pas, par exemple, il y a 3500 km de malls sur la Terre en 1996. Et puis il s'aperçoit qu'il y en a 5250 en 2000 et qu'il y en a 10823 en 2005. Et que c'est une courbe exponentielle et que donc il y a de plus en plus de malls sur la Terre, de grandes rues commerciales couvertes, de plus en plus aux États-Unis, en Europe, en Chine, même dans l'hémisphère sud, etc. Donc il se dit, ben voilà, c'est ça l'avenir, il va y avoir des grands malls partout. Et pour l'instant, les supermarchés sont disconnectés les uns des autres. Ils ont des grandes poches de vide dans lesquelles il n'y a ni piétons ni commerce autour d'eux, qui leur sert de réservoir de potentiel d'achat en fait. C'est même là où on fait pousser le blé qui nourrit les vaches, qui donne le lait qu'on vend dans le supermarché. Donc pour l'instant, les supermarchés sont disconnectés les uns des autres. Mais vu que la longueur des malls dans le monde entier, ça grandit, un jour, ça va se réunir tout ça. Donc il va y avoir une espèce de ville de malls, où d'un mall à l'autre, tu pourras aller de Carrefour le Merlan jusqu'à Grand Littoral, par exemple. Et Grand Littoral à Pointe-Campagne à Aix, et d'Aix à Paris, et puis finalement, le TGV, c'est guère que... Ce sera une espèce de rue commerçante à grande vitesse. Et il fait des scénarios. Alors, le premier scénario, c'est New York, San Francisco en mall. Donc, c'est un grand mall qui fait les 5000 km entre New York et San Francisco. Ça marche, quoi. Et financièrement, c'est super. Tout le monde est content. Ça rapporte du fric, quoi. Les actionnaires sont heureux. Et donc, ils décident d'en faire un transocéanique. Ils font New York-Brest en mall de supermarché.
Souterrain.
Sous l'océan, hein, comme ça. Et alors là, il y a un petit hiatus qui est qu'ils creusent des deux côtés. Et puis au fur et à mesure qu'ils creusent et qu'ils avancent, ils mettent des boutiques. Ils mettent un H&M, un Fabio Sponti, un Dolce Cabana, un opticien, un FSR. Et puis ils arrivent au milieu et là, ils se trompent. Au milieu, ils mettent côte à côte deux Disney Store. Et il y en a un des deux qui fait faillite. C'est la seule histoire triste de l'histoire que j'ai racontée. Les deux Disney Store au milieu de l'océan Atlantique. Alors là, on va prendre la manière dure, parce que la manière douce, c'est de faire le détour en passant par la rampe, le tapis roulant, là, qui nous descend d'un niveau et qui nous amène dans les parkings. Mais on va pas faire ça, on va aller à la dure. Adieu, faux plafond. Donc, on quitte le mall, on se retrouve dans un petit réduit qui est encore très bien. Il y a les toilettes du supermarché. Ça, c'est chouette. C'est un petit peu plus calme. On voit que ça sert de dépôt de matériel. Il y a le chariot avec le sac plastique et puis tous les produits ménagers d'une des personnes de l'entretien. Very important. Toujours nettoyé en permanence. Et puis, il y a une échelle posée en biais. Voilà. Et d'ici, on va prendre une porte. Il y a marqué... Escalier, accès, parking, locaux sociaux. Alors, c'est les portes que dans un sens qu'on pousse avec les fesses en cas d'incendie. Et alors là, donc, il n'y a pas la musique. Le sol est en carrelage marron, c'est de la terre cuite, qui est assez belle, hein, en fait, dans son honnêteté, dans sa pauvreté. C'est un matériau moins cher. Au-dessus, le plafond, il n'y a pas de faux plafond, c'est juste un bardage en métal. Waouh, la rampe, elle est super dure, la rampe de l'escalier, c'est juste un bloc de béton avec de la peinture glycérophtalique. Il y a une couche de gris, et sous la couche de gris, il y a une couche de rouge. Et donc, quand tu grattes dans le gris pour marquer Majid, eh ben, tu as le rouge qui remonte, vermillon. C'est pas nettoyé, il y a des déchets un peu partout. Donc ça, c'est des emballages de viennoiserie. Ça, c'est un gobelet en carton de milkshake et ça, c'est des épluchures de mandarines. Ça, à mon avis, c'est postérieur. Sur les murs, il y a des carreaux céramiques qui servent à ce que, quand on tacle dessus, ce soit plus facile à nettoyer. Ils sont pas mal, mais ils font vachement salle de bain varoise, quoi. Vas-y, réponds, on fait en live. Et puis, tout est calme. Mais il y a Il n'y a pas de luxe et il faut être très maso pour y trouver de la volupté. Et c'est bien mon truc, moi, j'adore cet endroit. Donc je répète, nous sommes en train d'aller entre le deuxième plus grand supermarché des quartiers nord et la plus grande scène de théâtre national des quartiers nord. Un étage. C'est glauque, hein ? Là, ça sent un peu pipi. Bonjour. Bonjour, madame. Et puis, autrefois, ça n'y était pas, mais maintenant, on a ces portes où, depuis l'escalier qui est super glauque, on voit le parking du supermarché. Alors, on ne voit pas le parking en lui-même, on voit les ascenseurs et l'accès à la galerie avec les tapis roulants qui montent, sur lesquels il y a des gens à la retraite qui ont laissé tomber, même le fait d'avancer le genou, ils ont laissé tomber. Le sol est super beau, par exemple. Tu vois, c'est une espèce de béton teinté jaune. C'est assez luxueux. Je le trouve super. Et les murs avec la couleur, je trouve ça super. Donc c'est toujours le contraste où là, tout est nickel. Là, les bandes en inox qui protègent les murs contre les chocs des caddies. Et de ce côté-là, accès au centre urbain, tout est chewing-gum collé, mauvais entretien. Les systèmes d'incendie, la sécurité incendie, tu vois, c'est un sprinkler, c'est une arrivée d'incendie. Tout ça, c'est nu, c'est posé à même le truc. Bon, on a déjà descendu deux étages. On descend un troisième étage. Et donc c'est vraiment une rue très importante dans le quartier, tu vois.
Ici.
Bah oui, c'est entre la bibliothèque et là où tu fais tes courses, quoi. Alors, on a descendu trois étages et on se retrouve devant un grand couloir qui est tapissé sur les murs avec des panneaux en métal perforé qui doivent avoir une fonction acoustique. Ça, c'est des pièges à son. L'ambiance devait vraiment être très dure pour légitimer le fait de mettre des pièges à son. Et les pièges à son sont peints avec du tag, mais super mimi gentil, quoi. Ouais. D'accord, c'est du graphe, c'est de la grande peinture murale. Hein. Et Bonjour, mademoiselle. Le sol, c'est ce lino avec les alvéoles qu'on a dans le sol du métro, là. J'adore ce truc, quoi. Je trouve ça super, avec les petits ronds partout. Plap, 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 plap. Les années 70. Alors, le distributeur d'Orangina du commissariat du Merlan. Donc, on est toujours dans la galerie entre la bibliothèque et le supermarché. Et à un moment, la galerie a une paroi en verre, sécurité, hein, tu vois. Et par là, on peut voir le parking du c'est le parking du commissariat et l'entrée du commissariat. Alors, les murs du parking du commissariat sont revêtus de carrelage en train de se casser la gueule, hein, le vois-tu là. Tu vois, on voit les empreintes qui étaient sous le carrelage, on voit plus que les joints dégueulasses. Et puis c'est d'un glauque incroyable, un parking, mon Dieu, c'est pas fait pour être vécu. Il y a l'entrée du commissariat, qui est un service public, c'est pas encore privatisé, on va rigoler le jour où ce sera privatisé. Oui, c'est le groupe Sodexo qui assure la police des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Et on voit à l'intérieur le distributeur d'Orangina, qui est pas là pour les flics, qui est là pour les gens qui sont dans la salle d'attente. Et ça les pacifie. Alors je raconte une histoire, hein. C'est pas moi du tout, c'est l'histoire d'un mec qui va acheter du hashish à la Busserine une fois. Et alors, il faut aller dans les immeubles, hein, qui sont juste en face du commissariat. Il faut monter chez le mec, il est au deuxième étage. Chez le mec, il y a tout ce qu'il faut. Nana, c'est un homme d'affaires, la salle d'attente, le banc pour la transaction, tout se passe bien. Et on fume les premiers pétards et par la fenêtre, ce qu'on voit la nuit, c'est juste de l'autre côté de la rue, les fenêtres du commissariat qui sont éclairées de l'intérieur. Et par la fenêtre du commissariat, on voit distinctement un policier en uniforme, assis de dos, en train de regarder un écran de contrôle. Il y a des espèces de mise en abîme comme ça, tu vois. Ça se passe chez un dealer, depuis chez qui on voit le commissariat, et dans le commissariat, on voit un flic en train de regarder des vidéos qui sont encore ailleurs, qui surveillent encore ailleurs. Une espèce de mise en abîme avec beaucoup de technologie pour faire marcher tout ça. Cette coursive a beaucoup de succès. Hein. J'ai connu une artiste, Yasmina Rassi, qui avait fait un spectacle ici. Là. Elle s'était pendue avec des sacs plastiques. Elle avait fait une corde pour se pendre. J'ai fait J'ai fait une corde en nouant des sacs plastiques de Carrefour pour me les nouer autour du cou et me pendre dans le parking du commissariat. C'est ça là, c'est un peu d'infini dans l'ordinaire quotidien. Alors, on quitte la galerie et on arrive dans le hall devant la bibliothèque qui est fermée. Je trouve que c'est un très bel endroit ici. Au-dessus de nous, là, il y a un petit peu de vide, il y a deux niveaux de vide. Parce que encore au-dessus, il y a le palier avec, je sais plus ce qu'il y a à droite, des ateliers du théâtre. À notre gauche, la bibliothèque, mais je crois que c'est pas l'entrée principale, on rentre par en dessous, il me semble. Je ne sais plus trop, je me mélange.
Non, c'est ici,
là. C'est ici, donc c'est fermé en ce moment. Et à droite, il y a le centre sanitaire et social, la protection maternelle et infantile et la mairie annexe. Et tout ça, les brûlures de cigarettes sur le sol sont super, quoi.
Mais c'est fermé parce qu'il y a la grève aujourd'hui.
J'ai entendu ça à la radio. Et alors, nous sommes en balcon, sur le balcon de l'entrée du théâtre.
Non.
C'est un bel endroit, hein ?
Oui, ici, oui.
Alors, il y a un mec qui a envie d'ouvrir sa gueule, on va l'écouter. Prenne l'escalier qui est superbe. Tu vois, c'est un vrai début. Le parcours qu'on a fait entre le carrefour et la bibliothèque, c'est vraiment le centre du quartier. C'est la rue dans le quartier. C'est là où on se rencontre. Là, ils se sont croisés, ils se sont serrés la main. C'est là où on passe un peu tous les jours, tu vois, en blanc du gars. Et ça se passe dans le béton, qui est très réverbérant quand tu as accouché ça. J'aime beaucoup ce rôle du théâtre. C'est trop super. J'avais fait une expo pendant un moment, là, sous le plafond, j'avais accroché des trucs. Une espèce de riflame.
Qu'est-ce qu'il y a écrit là ?
Mots. Sur les vitres, il y a marqué mots, et à travers les mots, on voit les choses. Les couleurs, et avant c'était blanc, et maintenant ils ont repeint les murs avec ce mauve là. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas débilos non plus, quoi. Donc ça va. Mais là, il y a les choses que j'aime le plus, c'est les panneaux préfabriqués. Tu vois, c'est la façade du théâtre, c'est une espèce de panneau rectangulaire. En bas à gauche, il y a une encoche pour mettre l'autre panneau, et tout ça, ça s'empile et ça s'emboîte. Tu vois, il y a une espèce de géométrie simple, mathématique, ludique. Je pense que c'était les travaux du midi qui ont fait ça, parce qu'ils étaient très forts pour faire des panneaux comme ça à l'époque. C'est une grosse boîte de bâtiments. Et puis ce centre urbain, c'est un grand mystère. Il a dû être construit entre 74 et 76. J'avais rencontré un type de la DDE il y a 4-5 ans, à propos de la L2, puisque sous le carrefour Merlan, il y a Salvador Allende. Et Salvador Allende va devenir la L2, la grande rocade de Marseille. Et va passer à 2x3 voies avec un gabarit autoroutier. Ça, il y a des normes européennes pour qu'est-ce qu'une autoroute, tu vois. Il faut la bande d'arrêt d'urgence, etc. Et donc, il faut agrandir en dessous le passage de l'autoroute. C'est pas sous le carrefour. Et ils n'ont pas les plans. Alors, ils ont fait des relevés, des murs, les poteaux, où est-ce qu'ils sont, tout ça. Et une fois qu'ils ont regardé les relevés, ils ne savent pas comment ça tient debout. Parce que d'après le relevé et les calculs, ça devrait se casser la gueule. Tu vois, toute la galette du carrefour Le Merlan, là, on ne sait pas comment ça tient. En dessous, c'est de la poudingue. C'est une roche, c'est un agglomérat incohérent de roches de différentes duretés. Il y a du caillou, il y a de la marne, il y a du sable. Donc tout ça, ça bouge en permanence, tu sais, quand tu t'appuies dessus. Donc ils ne savent pas trop comment ça tient. Après, dans les projets des années 60...
C'est
ouais.
Comme Grand Littoral, on ne sait pas trop comment ça tient.
Oui, Grand Littoral, c'était cassé, c'était neuf, cassé. Mais je crois que Grand Littoral, il y a une histoire où ils ont fait plusieurs études de faisabilité au moment du projet. La première étude dit non, le sol de la carrière est argileux et ça coûterait trop cher en fondation, c'est pas possible. La deuxième étude dit non, c'est pas possible. La troisième étude dit non, c'est pas possible. Et ils sont allés jusqu'à peut-être 6 ou 7 études de faisabilité avant d'en avoir une qui disent oh, bon, faudra faire des fondations un peu chères, mais on va essayer. Et résultat, le tiers du supermarché est fermé, ils enfoncent des pieux, ça coûte une fortune et ça rapporte beaucoup d'argent aux assureurs, au cabinet d'experts, pour savoir qui paye quoi. Enfin bon. Mais ça, c'est notre monde à nous. Hein. Moi, je l'aime bien comme ça.
Ah oui ?
Ouais. Bah, c'est drôle. Hein. C'est comme le manège tout à l'heure. Ça tourne en rond et ça a une forme de camion Mercedes choupa-choup, quoi. C'est drôle. Ce qui n'est pas drôle, c'est que ça écrase un peu les gens sur le bord, mais on s'est fait un peu écraser, et ça a construit notre identité, et on est des mecs un peu solides et costauds maintenant grâce à ça.
Oui, bon, ouais, on peut imaginer qu'il y ait d'autres schémas de construction qui tous existent.
Mais en tout cas, il en faut. Oh merde, mon sac se casse la gueule.
Ah ouais.
Si tu en chies pas dans la vie, tu te fais chier, quoi. Si t'as pas des trucs durs, tu deviens obèse et dépressif, quoi.
Je croyais que c'est quand tu as trop de trucs durs que tu deviens obèse.
C'est un ami, là, Nicolas Detri, il raconte ça, il dit, il parle de la pauvreté chez les riches. On est riche, globalement on est riche. Alors globalement, parce qu'on est un pays riche, dans un continent riche, dans un hémisphère riche, et on est riche relativement, puisqu'on sait qu'il y a encore des gens qui font caca dehors avec la pluie qui leur tombe sur la tête sans rien manger. Ça on le sait, et puis ils meurent de rhume aussi. Donc on est riche. Mais chez les riches, il y a des pauvres. Sont relativement pauvres. Et il y a la pauvreté financière, mais il y a la pauvreté morale et culturelle aussi. Et en fait, le supermarché là qu'on est allé voir, c'est aussi l'endroit où s'exprime, où vit la pauvreté morale de l'occidental riche. C'est aussi cet endroit-là. Voilà. Et c'est pour ça que le riche, qui en même temps est pauvre, en général est obèse et se pose des questions dont il n'a pas de réponse. Parce qu'il ne sait pas que la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Et donc voilà, c'est un lieu de pauvreté. Alors, les vrais pauvres, ils vont chez Leader Price, ils ne vont pas à Carrefour. Et Leader Price, Lidl, etc., ils payent super cher. Les designers les plus esthètes, les architectes les plus élégants et raffinés, pour arriver à avoir un look pas cher. C'est super calculé. Leader Price, par exemple, c'est apparu il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans. C'est parmi les plus belles choses qu'on arrive à faire, Leader Price. Il n'y a rien qui dépasse. C'est sobre, c'est un hangar. Il y a très peu de couleurs. Parce que, mais tout ça, c'est calculé. Ça a coûté cher pour avoir l'air de ne pas coûter cher. Les vrais pauvres, ils vont à Leader Price. À Carrefour, ce sont les classes moyennes qui vont à Carrefour. Et c'est pour ça que c'est le spectacle de notre richesse. Parce que c'est là où on acquiert toutes les preuves de notre richesse. On est riche parce qu'on a un déodorant qui, en même temps, lave la voiture et permet de capter le satellite et qu'on a le truc qui enlève la tâche qu'avant, elle ne partait pas, etc. Donc, on est riche pour ça. Mais tous ces objets-là, tu vois, c'est du plastique qu'on jette à la poubelle. Ça ne dure jamais longtemps, tout est jetable. De tout ce qu'on a vu, il n'y a rien de pérenne, tu vois. À part la statue du David qui était dans la vitrine de magasin, qui doit être un beau plâtre, si on ne le met pas dehors, ça peut durer longtemps. On a vu que des trucs en toc, quoi. En gros, on a vu une espèce de future grosse poubelle géante. Voilà. Donc, notre richesse, elle est fausse, parce qu'au bout de 10 ans, elle n'est plus garantie. C'est poubelle, hein, cash, mais on n'y pense pas. Voilà. Et enfin, les vrais riches, ils vont pas à Carrefour. Les vrais riches, ils vont... D'abord, ils vont au cinéma, ils lisent des livres. Ils vont dans d'autres pays, parce qu'ici c'est chiant. Et puis il y a peut-être des personnes qui font leurs courses à leur place, tu vois. Voilà. Donc c'est richesse et pauvreté mélangées. Richesse fictive, parce que l'objet en lui-même, c'est une future poubelle. Donc c'est plus un... Vu que c'est un déchet, c'est plus une dette qu'un avoir. Ouais, c'est plus un passif qu'un positif. C'est plus un passif qu'un crédit. Voilà. Si tu l'achètes, mais il va falloir que tu le jettes à la poubelle, ça va polluer l'environnement pour encore 5 générations. Donc c'est pour de faux. Richesse pour de faux aussi, parce que les gens qui y vont, c'est pas les riches. Et c'est pas les pauvres non plus, c'est les moyens. Voilà. Ah, c'est du théâtre. Et on est au théâtre.
C'est ainsi que se termine cette visite du centre commercial Le Merlan avec Nicolas Mémin. C'est ainsi que se termine cette journée aussi autour des centres commerciaux sur la Grenouille. Une journée au cours de laquelle vous avez pu entendre également différents acteurs du centre Bourse, ainsi que l'architecte François Kern qui nous parlait des terrasses du port, le photographe André Marian qui nous parlait de plans de campagne, et une playlist des programmateurs musicaux de centres commerciaux de la société Musique Galerie. Mais la semaine commerciale sur la Grenouille se poursuit demain. Rendez-vous à 18h pour une émission autour d'un des plus grands centres commerciaux de Marseille, les Puces. Bon week-end à tous.